Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h30, ici à Paris, 2h de moins en temps universel, c'est RFI Soir.
Afrique Soir sur RFI.
Voici une nouvelle demi-heure d'information. C'est avec vous, Paul Loncin-Spinelli. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. À la une, les tractations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis en vue d'un potentiel accord de paix. Washington attend ce vendredi la liste des éléments que Kinshasa et Kigali souhaitent voir écrits dans ce premier jet d'accord. Le point juste après les titres avec Patient Ligodi. Plusieurs partis maliens vont se rassembler demain à Bamako pour défendre leur existence. Même, elle est menacée par une recommandation issue des concertations des forces vives du pays voulues par les autorités de transition. Celle-ci doit se terminer d'ici la fin d'année, d'après plusieurs chefs de parti qui se sont confiés à RFI. Au Mali, au Burkina Faso voisin et dans de nombreux pays africains, la liberté de la presse est en danger. Message délivré par Reporters sans frontières dans son dernier classement mondial paru aujourd'hui. Le chef de la branche Afrique de l'organisation prend la parole dans cette édition. Le dossier d'Afrique Soir consacré à la résurgence des criquets pèlerins en Afrique du Nord. Des nuées de ces insectes volants s'attaquent aux cultures, ce qui inquiète l'ONU. Et puis d'ici une grosse quinzaine de minutes, même Abdoulaziz Diallo, l'un des correspondants des RFI à Abidjan, vous fera découvrir le tout nouvel album du reggae man ivoirien Fadal Day. L'opus s'appelle Ta Lumière. Une nouvelle étape dans la co-construction d'un accord de paix entre République démocratique du Congo et Rwanda. Kinshasa et Kigali doivent transmettre aujourd'hui des points devant figurer dans l'avant-projet d'accord. Un palier prévu à la suite de la signature il y a une semaine d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Décryptage de cette nouvelle étape du processus diplomatique en cours avec Patient Ligodi.
Les deux parties, la RDC et le Rwanda, doivent transmettre aux Américains les éléments qu'elles souhaitent voir figurer dans l'avant-projet d'accord de paix. Ce document, qui sera ensuite rédigé par les États-Unis, ne sera pas rendu public pour l'instant. Il s'agira d'un brouillon de travail appelé à être discuté et ajusté au fil des semaines. Les grandes lignes de ces textes s'inscrivent dans les axes définis par la déclaration de principe signée la semaine dernière. Respect de la souveraineté, lutte contre les groupes armés, commerce des minerais, mais aussi situation de réfugiés, gouvernance régionale et rôle des mécanismes internationaux comme la MONUSCO. Les ministres des Affaires étrangères ne sont pas présents physiquement à Washington pour cette étape et selon des sources proches de la médiation, rien ne sera signé aujourd'hui. L'objectif est de parvenir d'ici à la troisième semaine de mai à une rencontre ministérielle à Washington pour finaliser un texte consolidé. La signature définitive est, elle, envisagée pour le mois de juin. Elle pourrait avoir lieu en présence des présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump, d'autres chefs d'État africains, pourraient également être conviés. En parallèle, les discussions se poursuivent à Doha, à plusieurs niveaux, entre Kinshasa et le M23, mais aussi entre Kinshasa et Kigali.
Patient Ligodi, ces discussions entre la RDC et le Rwanda sous la houlette des États-Unis, elles ne plaisent pas à tout le monde. Plusieurs voix se sont faites entendre cette semaine pour demander plus de transparence et d'inclusivité. Pour Martin Ziakwao Lembisa, professeur à l'Université catholique du Congo, le processus est opaque.
Nous constatons que le point de départ, ce n'est pas la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda. Donc, on fait fi d'une réalité incontestable et on veut bâtir une autre réalité partant sur d'autres considérations essentiellement d'ordre économique. Oui, on peut, sur base de cette nouvelle réalité, avec la pression des États-Unis d'Amérique, obtenir le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, obtenir la fin de l'activisme militaire du M23, même s'il faut rappeler, souligner que le M23 n'est pas le seul groupe armé dans l'est de la RDC. Donc ça signifie que cela ne suffira pas pour résoudre le problème dans son fond, mais surtout, cela ne pourrait pas suffire pour assurer une stabilité pérenne. Or, ce dont on a besoin, c'est de créer les conditions d'une résolution profonde de la situation pour une solution pérenne. Mais si dans cette quête de garantie sécuritaire contre le Rwanda, il y a opacité, puisqu'il n'y a pas de communication claire sur cette affaire, ça pose déjà problème.
Propos recueillis par Alexandra Branjon. Il ne compte pas laisser la sphère politique malienne se déliter. Hier, les dirigeants d'une centaine de partis, parmi lesquels les principaux du pays, se sont réunis à Bamako afin de se mobiliser contre leur dissolution et à refuser l'installation du général Assimi Goïta à la tête du pays, et ce, sans élection. Ces deux préconisations mises en œuvre par les autorités de transition sont issues des concertations des Forces Vives, une initiative lancée par la junte elle-même. Les partis politiques réagissent donc et rendront publique une déclaration commune lors d'un grand rassemblement dans la capitale demain, David Baché.
Rendez-vous est donné à 14h au Palais de la Culture de Bamako. Les partis politiques invitent tous les Maliens à se joindre à eux pour défendre la démocratie et rejeter les conclusions des pseudo-consultations de ces forces vives qui n'en sont pas, selon les termes d'un chef de parti en première ligne dans la mobilisation. Les partis politiques dénoncent la participation de responsables administratifs et tout particulièrement des gouverneurs de région. Ils ont joué le rôle de porte-parole. Des fonctionnaires ne devraient pas être utilisés pour inciter à violer la Constitution, estime cette même source. Une plainte sera déposée devant la justice malienne, selon plusieurs chefs de parti qui indiquent qu'une équipe d'avocats doit être constituée. Les partis vont s'opposer à leur dissolution programmée, mais ce combat ne doit pas servir de diversion. Le projet d'élever Assimi Goïta au rang de président de la République, et non plus de transition, et de suspendre toute perspective d'élection pour une durée indéfinie, suscite l'indignation. La transition doit finir en 2025, martèlent plusieurs chefs de parti qui compte demander un chronogramme clair. Si certains des politiques joints par RFI sont plus va-t-en-guerre que d'autres, tous souhaitent faire bloc. Nous sommes soudés et décidés, assure l'un d'entre eux.
David Baché. Quand tendre son micro, allumer sa caméra ou griffonner un entretien sur son carnet devient dangereux. En Afrique, la liberté de la presse est de plus en plus menacée. C'est ce que révèle le dernier classement mondial de l'organisation Reporters sans frontières publié aujourd'hui. Sadibou Marong est directeur Afrique de RSF. Il dénonce les atteintes parfois physiques que subissent les journalistes.
La dégradation de la sécurité des journalistes compromet directement aussi la viabilité économique des médias au Sahel d'une manière générale. On l'a vu au Mali, on l'a vu également au Burkina, où les activités des médias sont suspendues. Et on a aussi vu que des journalistes jugés critiques des autorités ont même été enrôlés de force, ce qui renforce la chape de plomb sur les médias. C'est également le cas au Soudan où la guerre en cours a exacerbé les difficultés économiques des médias. Et c'est aussi le cas dans l'Est de la République du Congo, avec des dizaines de fermetures de radios et de journalistes déplacés et désormais sans emploi. Il y a la question de la sécurité des journalistes de plus en plus importante et la possibilité aussi que les journalistes peuvent avoir de travailler sans risque de représailles et sans risque également d'être emprisonnés de manière souvent arbitraire. Le fait que aussi les journalistes ne sont pas sous des pressions économiques ou des pressions financières, mais également des pressions de type juridique. Et cela compromet l'indépendance des médias.
Sadibou Marong, joint par Christina Okello, entretien retrouvé en longueur sur RFI.fr. Au Sénégal, c'est un bras de fer qui se dessine justement entre médias et gouvernement. Le ministère de la Communication maintient sa suspension des médias qui ne respectent pas les exigences administratives du Code de la presse. 381 médias sur 639 sont concernés. Lors d'une conférence de presse, le directeur de la communication a évoqué une basique application de la loi. Habibou Dia assure que l'exécutif souhaite simplement assainir et réorganiser le secteur médiatique.
Aujourd'hui, les acteurs ont tendance à parler de fermeture de médias. Je rappelle que l'arrêté ne dit pas fermeture de médias ni entreprise de presse. Aucune entreprise n'a été fermée. C'est les canaux non conformes qui constituent des médias de ces entreprises qui peut-être en ont plusieurs. Quelqu'un peut avoir une télévision, un journal, un site web, une web TV. Si votre journal n'est pas conforme, votre journal doit cesser jusqu'à ce qu'il se conforme. Ça ne veut pas dire qu'on a demandé à l'entreprise de fermer. Ça, c'est un élément important de précision à apporter. L'autre aspect, c'est que la plupart des médias, en réalité, pour ne pas être très très violent, c'est des médias fantaisistes, c'est des déclarations de médias inexistants. Certaines radios communautaires n'émettaient pas, les fréquences sont attribuées mais les radios n'émettent pas. Certains journaux ne sont jamais parus sur la place publique, c'est des PDF. Certaines télévisions, entre guillemets, on se rend compte que c'est des chaînes YouTube qui se contentent, qui ne produisent même pas en ligne. Donc ces médias en réalité n'existent pas, n'ont pas de personnalité, n'ont pas de contenu.
Abiboudia au micro de Léa Lisa Vesterov. Selon le ministère de la Communication, les médias suspendus gardent la possibilité de se mettre en conformité sur la plateforme en ligne dédiée. Au Sénégal, toujours deux anciens ministres de Macky Sall, l'ex-président, ont vu leur immunité parlementaire levée par l'Assemblée nationale. Moustapha Diop était ministre du Développement industriel et Salimata Diop, ministre de la Femme, au moment de la mise en place du fonds anti-Covid entre 2020 et 2021. Ils sont tous deux soupçonnés d'avoir participé à un système de malversation de cet argent public. Au total, 5 ex-membres de gouvernement sous la présidence de Macky Sall sont dans le collimateur de la justice. Au Togo, Fornia Singbé prêtera serment demain pour devenir président du Conseil des ministres, désormais plus haute fonction politique du pays. D'après un communiqué de la Cour constitutionnelle publié aujourd'hui, la cérémonie débutera à 9h locale demain. Ce nouveau poste, créé par une réforme constitutionnelle dénoncée par l'opposition, doit être occupé par le chef de parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence donc Fornia Singbé. Il ne mesure qu'entre 5 et 10 cm de long, mais fait des ravages dans les cultures agricoles. Cette semaine, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a tiré la sonnette d'alarme concernant l'arrivée de criquets pèlerins en Afrique du Nord. La Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont déjà commencé à pulvériser des milliers d'hectares de champs avec des pesticides, et ce afin de lutter contre des essaims qui ont commencé à déferler donc dans les zones sahéliennes, en raison notamment des conditions météo, Jeanne Richard.
Les premiers groupes de criquets pèlerins ont été observés dans le nord du Sahel en décembre dernier et pendant l'hiver, ils sont remontés avec le vent du désert jusqu'au Maghreb. Depuis, ils continuent à se développer selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation qui coordonne la lutte contre le criquet pèlerin dans la zone. Aujourd'hui, de petits essaims sont présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie jusqu'en Tunisie et en Libye. Des groupes sont également détectés au Maroc, au nord du Tchad et du Niger. Le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit en solitaire, mais si les conditions sont bonnes, il se reproduit alors en grand nombre et change de comportement. Il forme des essaims capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaim peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui consomment en une seule journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Dans le Maghreb, la situation n'est pas encore hors de contrôle, expliquent les experts, mais l'alerte est lancée. Il est nécessaire de mieux surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion dans les mois prochains.
Jeanne Richard, pour comprendre les facteurs qui favorisent ce nouvel essor des criquets pèlerins en Afrique du Nord, vous vous êtes entretenu avec Cyril Piou, il est prévisionniste acridien à la FAO, c'est-à-dire spécialiste du groupe d'insectes auquel appartiennent les criquets.
La situation de cette année est liée aux très bonnes pluies qui ont eu lieu dans tout le Sahel, et surtout dans le nord du Sahel, en août et septembre dernier. Et ces très bonnes pluies ont généré de la végétation dans des endroits qui habituellement reçoivent très très peu de pluie à cette période. Et cette végétation a permis aux criquets de se multiplier pendant plusieurs mois assez tranquillement, on va dire, puisqu'ils étaient dans des endroits difficiles d'accès et majoritairement avec des problèmes de sécurité pour y accéder. Et ces groupes ont petit à petit migré vers le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, en décembre-janvier. Ils ont pu se reproduire dans ces endroits-là aussi parce qu'il y avait eu des très bonnes pluies aussi dans ces endroits-là en septembre. Donc les conditions étaient idéales pour qu'ils puissent se reproduire. Donc là, on arrive au printemps avec des populations qui sont déjà assez haut niveau en termes d'effectifs et des groupes qui sont remontés jusqu'en Tunisie. Et ça s'était pas vu depuis une vingtaine d'années.
Vous dites que l'insécurité est en cause, mais les conditions météo aussi. Est-ce que le changement climatique a pu favoriser ce retour des criquets pèlerins ?
De toute façon, le climat est toujours impliqué dans les dynamiques de population du criquet pèlerin. Les endroits qui reçoivent des pluies anormales dans les déserts sont extrêmement favorables au criquet pèlerin. Et là, on peut penser que ces très bonnes pluies qui sont remontées très au nord l'été dernier, qui risquent d'avoir encore lieu cet été qui vient, peuvent être un effet du changement climatique. C'est en tout cas ce que disent certains météorologues. Donc, on peut croire que tout ça, c'est lié, oui.
Et que doivent faire les pays du Maghreb et du Sahel face à ce risque d'invasion ?
Donc concrètement, il faut que les États mobilisent des équipes sur le terrain pour pouvoir vérifier s'il y a des populations qui sont en train de se reproduire et donc de se multiplier et les contrôler avant qu'ils ne refassent des groupes qui redescendent éventuellement vers le Sahel dans les mois qui viennent. C'est particulièrement important pour empêcher l'arrivée de nouveaux essaims vers le sud dans le Sahel, mais aussi pour les cultures des pays du nord de l'Afrique, puisque sur le passage, les essaims pourraient aussi avoir des impacts sur leur agriculture. Donc, tous les pays sont impliqués et doivent s'entraider dans cette dynamique de gestion préventive.
Cyril Piou avec Jeanne Richard qui a préparé le dossier de cette édition d'Afrique Soir. Un sentiment d'urgence après une série d'attaques djihadistes dans le nord-est du Nigeria, Borno, Adamawa, Gombe, Taraba, Yobe et Bauchi. Les gouverneurs de ces 6 provinces se réunissaient hier après la mort d'une centaine de personnes au moins en avril. À l'issue de leur rencontre, ils ont publié un communiqué appelant les forces de sécurité à revoir leur stratégie face à ce qu'ils qualifient de situation sécuritaire très dégradée, Lisa Fabian.
Le groupe djihadiste Boko Haram et son rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont intensifié leurs opérations alors qu'ils semblaient avoir perdu du terrain ces dernières années. Leurs tactiques de combat ont aussi évolué avec l'usage de drones et le retour des engins explosifs utilisés notamment le long des routes. En début de semaine, 26 personnes ont perdu la vie lorsque le minibus à bord duquel elles circulaient a sauté sur une mine artisanale dans l'État de Borno. Dans ce contexte, les gouverneurs du Nord-Est estiment que la stratégie de l'armée nigériane n'est plus la bonne. Dans leur communiqué, ils recommandent une approche multidimensionnelle du problème en insistant sur l'éducation et l'emploi des jeunes pour lutter contre la pauvreté, notamment. Le mauvais état du réseau routier contribue aussi à l'insécurité, notent les gouverneurs du Nord-Est, qui regrettent l'abandon de certains projets publics, pourtant essentiels pour désenclaver les communautés et permettre leur développement. Et même s'ils ne le mentionnent pas directement, on sait aussi que la force multinationale mixte est affaibli après le départ du Niger au mois de mars, qui perturbe les patrouilles transfrontalières et le partage de renseignements entre les pays du bassin du lac Tchad.
Lisa Fabian, et ce vendredi, le président nigérian Bola Tinubu a promis de fournir à son armée des équipements de pointe et de déployer des renseignements de qualité supérieure pour vaincre tous ses adversaires. Et puis les derniers efforts du peloton engagé sur le tour cycliste du Bénin, 5e et avant-dernière étape aujourd'hui, 100 km entre Wini et la capitale Porto Novo, avec une nouvelle fois une arrivée au sprint, et une nouvelle fois c'est le maillot jaune Reinhard Jonsse von Rendsburg qui s'est illustré en remportant sa 2e étape devant Ibrahim Essebaï. Le Marocain reste son premier poursuivant, au général à 12 secondes. Cette étape, elle a bien failli sourire à 2 coureurs camerounais. L'échappée a été reprise à 2 km de l'arrivée. Fabrice Chauffort n'était vraiment pas loin.
En fait, l'étape d'aujourd'hui, moi j'avais prévu aller chercher la victoire d'étape, mais bon, le peloton était très costaud. J'ai passé toute la journée devant avec un collègue à moi et 2 Béninois. On a tout donné, on a roulé jusqu'à les 20 derniers kilomètres. On a commencé à s'attaquer et ça s'est contrôlé. Mais bon, j'ai tout donné, mais j'ai pas eu de chance. Donc, demain, c'est un autre jour. Je vais encore essayer. Toute mon équipe, on se soutient main dans la main. Quand le peloton décide, même si on donne à fond devant, c'est pas facile. C'est le peloton qui décide, donc c'est un peu ça.
Fabrice Chauffort au micro d'Olivier Pron, et ce samedi, dernière étape de ce Tour du Bénin, 105 km entre Tofo et Cotonou. RFI, 20h48 à Paris, les principaux titres de l'actualité internationale avec Philippe Le Caplin.
Et revenons sur ce qui s'est passé dans le centre de Stuttgart en Allemagne. Au moins 8 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, après qu'une voiture a percuté des piétons. Le conducteur de la voiture a été arrêté. Rien ne laisse pour le moment penser qu'il s'agisse d'un attentat ou d'un acte intentionnel, dit la police, qui qualifie plutôt ce qui s'est passé de dramatique accident de la circulation. En Syrie, tôt ce matin, Israël a bombardé à proximité du palais présidentiel à Damas une violation de la souveraineté territoriale de la Syrie condamnée par le secrétaire général des Nations Unies. La présidence syrienne dénonce une dangereuse escalade. Dans la bande de Gaza, cela fait 2 mois, jour pour jour, que l'aide humanitaire ne rentre plus. C'est la plus longue interruption depuis le début de la guerre, alors que l'enclave est assiégée. Israël continue ses bombardements. Encore 29 personnes tuées depuis ce matin, selon la défense civile gazaoui. 530 millions d'euros, c'est le montant dont écope TikTok en Europe. Le réseau social chinois ne garantit pas une protection suffisante aux données personnelles de ses utilisateurs européens. C'est la conclusion de l'autorité irlandaise de la protection des données. Afrique Soir avec Paul Loncin-Spinelli, c'est la suite.
Le jeu vidéo comme outil pédagogique et documentaire. C'est comme ça que Teddy Kosoko pense ce support. Cet entrepreneur centrafricain d'origine a aujourd'hui 30 ans. Il est installé à Toulouse dans le sud-ouest de la France. Ses ambitions sont hautes puisqu'il souhaite désormais mettre sur pied un marché du jeu vidéo africain et vendre directement sur le continent. Christina Okello l'a rencontré à Marseille il y a 15 jours.
La mission de Teddy Kosoko, reconnecter les Africains à leur histoire. Une ambition qui le pousse à créer Massacre Game Studio en 2018.
Alors déjà, Massacre dans ma langue natale, Sango, ça veut dire jeune, jeunesse. Et pour moi, Massacre, c'est le moyen pour moi de raconter l'Afrique. Raconter l'Afrique d'abord aux Africains, parce que la plupart des Africains ne connaissent pas le continent africain. Et ensuite, raconter l'Afrique au reste du monde, pour que les gens puissent connaître l'Afrique au-delà de la colonisation et de l'esclavage, qui colle aujourd'hui à la peau des Africains. On n'est pas que cela.
Ces jeux s'inspirent des cultures africaines. Kisoro, par exemple, révisite l'Awale, ce jeu de stratégie traditionnelle pour en faire un outil de paix.
C'est un jeu avec des pions et des cases. À l'époque, le jeu Kisoro pour promouvoir la paix et raconter une histoire où deux royaumes vont utiliser le Kisoro comme un outil de paix pour résoudre un conflit millénaire.
La Centrafrique, à l'époque, est en guerre et Teddy Kosoko choisit la créativité comme arme politique. Le succès est au rendez-vous. Plus de 50 000 téléchargements, puis vient la légende de Moulou, un jeu d'aventure pédagogique, mais un problème persiste. Ces jeux se vendent partout, sauf en Afrique. Car les grandes plateformes comme Google Play imposent des cartes bancaires et empêchent les créateurs africains de vendre localement. Pour contourner ces blocages, Teddy Kosoko lance Gara, une boutique en ligne pensée pour l'Afrique. Elle centralise les contenus et utilise le mobile money pour simplifier l'achat.
J'ai 100 francs CFA. Tout le monde a 100 francs CFA. Et je mets mes 100 francs CFA, je paye et j'ai accès à tous les contenus que je veux. Et grâce à mes 100 francs CFA, je vais aider les créateurs africains à générer de l'argent et à vivre de leur création.
Mais pour Teddy Kosoko, l'enjeu dépasse l'économie.
J'ai vécu deux guerres la première guerre que j'ai vécue, j'ai vu des enfants soldats venir chez nous et tout casser. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ils sont devenus des enfants soldats. Quand tu travailles, quand tu as un emploi, tu ne vas pas prendre les armes, c'est rare. Il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de chaînes de valeur pour que les jeunes eux-mêmes génèrent des revenus et vivent de ça.
Derrière ces jeux, Teddy Kosoko défend un combat, bâtir une industrie capable de créer des emplois, car stabiliser les sociétés passe aussi par là.
Un portrait de Teddy Kosoko signé Christina Okello. C'est peut-être lui le nouveau porte-drapeau du reggae ivoirien. Fadal Day revient avec un 7e album. Il s'appelle Ta Lumière. 26 titres qui mêlent spiritualité et engagement humanitaire, entre autres avec un message politique. Abdoulaziz Diallo a écouté cet opus pour RFI.
Fils d'un célèbre chansonnier traditionnel et d'une mère danseuse, Fadal Day signe son grand retour 5 ans après son dernier album. Avec Ta Lumière, le reggae-man ivoirien implore la lumière divine pour plus de paix, d'amour et d'humanité.
Ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine depuis plus de 40 ans maintenant, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Darfour, il faut y mettre fin. Pour cela, nous avons plus besoin de la lumière de Dieu. L'humanité a plus besoin de paix et de vivre ensemble.
Parmi les titres phares, Réveille-toi sonne comme une alerte adressée à une jeunesse qui l'appelle à sortir du sommeil de l'indifférence.
Toi tu es pas croc,
réveille-toi.
Pendant que tes amis bro, toi tu sommes mort,
réveille-toi.
Mais Fadal Day ne se contente pas de dénoncer. Il salue aussi les efforts et appelle à préserver les acquis. Dans Le Pays avance, il s'adresse à la nation en cette année électorale.
Le pays avance, avance, avance sur le bon chemin.
Mon pays avance.
J'ai surtout un message de paix, d'amour, de vivre ensemble et de pardon. Ce qui s'est passé en 2010, nous ne voulons plus revenir dans ça. Le chien qui a vu le lion et le chien qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir.
Dans cet album foisonnant de 26 titres, Ibrahima Kalilou Kone, alias Fadal Day, interpelle aussi les régimes militaires de la sous-région. « Tu parles trop » est un message sans détour.
C'est Dieu qui mine, c'est pas oba oba.
Fadaldé reste fidèle à lui-même, une voix pour éveiller les consciences. Avec ta lumière, il ne cherche pas seulement à briller, il veut éclairer. Abdelaziz Diallo, Abidjan.
Abidjan reggae, Côte d'Ivoire reggae, Abidjan reggae, sweet good reggae music, Rastafari. Big up.
De Ta Lumière, un nouvel album de l'ivoirien Fadaldé pour refermer cette édition d'Afrique Soir. La suite, c'est RFI Soir, avec vous Philippe Le Caplin.
Oui, enfin c'est le programme de la soirée sur Radio France. Exactement. Internationale. Dans trois quarts d'heure, Julien Trangeval pour Pourquoi RFI dit ça ? Pourquoi y a-t-il des journaux Afrique sur RFI ? Je pense que vous écouterez. Également, ce sera avec Laurent Corot. Avant cela, il y aura UBC l'Europe qui aura reçu Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'Organisation Mondiale du Commerce et commissaire européen au commerce. Avec lui, il sera question de la guerre commerciale et de la place de l'Europe face aux États-Unis. Dans la soirée, ce sera après le journal de 22h heure française, Couleur tropicale, et Claudie Sierre qui recevra Jenny Alpha, artiste et activiste guinéen devenu l'une des voix incontournables du hip-hop en Afrique de l'Ouest. Demain, il y présentera à La Place, à Paris, son nouvel album qui s'appelle Jour de paix. Et puis, sur le coup d'une heure dix, C'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras, La fin des villes serait pour bientôt. Ce sera avec Guillaume Faburel, géographe et auteur de Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant. Et puis un reportage de Combastien sur le plus ancien et le plus grand éco-village du monde qui est à Auroville en Inde.
Du 14 au 24 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 57e édition. La quinzaine, c'est une sélection de 30 films du monde entier ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Au programme, projection de courts et longs métrages, le choix du public et une carte blanche spéciale comédie avec Alain Chabat en invité spécial. La quinzaine des cinéastes du 14 au 24 mai. Plus d'informations sur quinzaine-cinéastes.fr en partenariat avec RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'équivalent d'une ville comme New York sort de terre chaque mois dans le monde. Cette urbanisation débridée commence à montrer ses limites. Mais d'autres modèles émergent. Plus de 10 000 écolieux sont recensés à travers le monde. Nous les explorons avec nos invités.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Comment les nazis sont-ils arrivés au pouvoir en 1933 ? Pourquoi Hitler a-t-il été nommé chancelier alors que son discours était antidémocratique, inégalitaire et haineux à l'égard des juifs ? Et comment comprendre cette langue dont les nazis ont fait une arme puissante et politique ?
La marche du monde. Valérie Nivelon,
à samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.